Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 1er avril 2007 sur France Culture, Frank Smith et Philippe Langlois proposaient un atelier de création radiophonique composé d'archives de journaux radiodiffusés. Ils alternaient dans leur montage informations relevant du canular et véritables dépêches ou reportages. Bien malin, celui qui parviendrait à distinguer les vraies nouvelles des gags. La réalité dépassant toujours la fiction, ce sont sans doute même les plus vraies d'entre elles qui paraissent les plus invraisemblables. Effet d'inquiétante étrangeté garantie et renforcé par l'utilisation de la musique pour film du compositeur américain James Newton Howard. Poissonnerie, une émission de Frank Smith et Philippe Langlois, réalisée par Anne-Pascale Desvignes et diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er avril 2007.
Tempo. Atelier de création radiophonique, Poissonnerie, par Philippe Langlois et Frank Smith.
Bonjour. 324 casseurs interpellés hier pendant la manif à Paris, 120 policiers blessés. Les habitants du quartier d'Enfer Rochereau estiment que les forces de l'ordre n'ont pas fait leur travail à temps. Nous en parlerons avec Alain Brier, le secrétaire général de la Fédération nationale autonome de la police. À la veille du 20e anniversaire de la mort de Georges Pompidou, ses anciens collaborateurs se souviennent du président de la République, invité de ce 13-14, Michel Jobert. Le troisième tour des cantonales, aujourd'hui les conseils généraux élisent leur président, analyse de Jérôme Dorville. L'accident de l'Airbus A310 en Sibérie la semaine dernière, apparemment ce n'est pas le pilote qui était aux commandes de l'avion.
Au salaire des fonctionnaires, ils sont relevés de 2,8% à partir du 1er avril.
Crise à la AS Saint-Étienne, un des clubs leaders du championnat de France, le conseil d'administration désapprouve la gestion du président Rocher. Rumeur à Moscou sur l'état de santé de Léonid Brejnev, le numéro 1 soviétique serait hospitalisé. Son médecin personnel a ajourné un voyage qu'il devait effectuer ce week-end en Grande-Bretagne. Pour garantir l'indépendance de la radio et de la télévision, une haute autorité composée de 9 membres, c'est le point essentiel du projet de loi sur l'audiovisuel adopté hier au Conseil des ministres.
Allô, Tananarive, ne quittez pas l'écoute. Nous vous mettons maintenant en communication avec la côte française des Somalis. À vous, Djibouti.
À l'exemple de la métropole, un comité local de secours aux sinistrés de Madagascar est en train de se constituer sous la présidence de M. Jacques Gompin, chef du territoire. du vice-président du Conseil de gouvernement et du ministre de la Santé. Radio Djibouti diffuse des appels après des informations provenant de Madagascar. Ces fonds sont dès maintenant collectés et seront adressés sans retard au gouvernement malgache. Ici Paul Farinet, qui vous parlez de Djibouti, à vous Paris.
Restez à l'écoute, Madagascar, nous allons maintenant nous mettre en communication avec nos confrères de France 5 à Alger.
Nous avons reçu ici à la rédaction de France Inter un certain nombre de coups de téléphone d'auditeurs et d'auditrices qui nous ont signalé chez eux l'apparition d'un phénomène insolite. De l'eau tiède, quelquefois chaude, sort du robinet d'eau froide. Jean Pézieux, vous avez demandé à Lucien Barnier de venir pour apporter quelques explications à ce phénomène.
Oui, mais pour bien comprendre ce qui se passe, et ce n'est pas très facile en l'occurrence, je crois que le mieux ce serait d'abord d'écouter le témoignage de la première personne qui nous a appelé tôt ce matin pour nous signaler ce phénomène.
Ce matin, en voulant me laver les dents, en ouvrant mon robinet d'eau froide, comme ça, vous voyez. Et vous pouvez le constater vous-même, l'eau est légèrement tiède.
Oui, effectivement.
Pourtant, ça fait un moment que je la fais couler, vous savez. Donc, souvent, ça se produit, ce phénomène. On ouvre le robinet d'eau froide et pendant quelques instants, l'eau est tiède parce qu'elle a séjourné longtemps dans l'immeuble. Mais là, ça fait un quart d'heure que ça coule et puis voilà, c'est toujours chaud.
Et alors, vous avez aussi vérifié dans les autres pièces de l'appartement ?
Oui, dans la cuisine, même phénomène.
Est-ce que vous êtes renseigné auprès de vos voisins pour voir si la même chose se produisait chez eux ?
Eh bien oui, je suis allée voir ma voisine et le phénomène est identique. C'est très troublant, mais j'ai vérifié à deux étages différents et aux deux étages, c'est la même chose. Non, je crois qu'il faudrait voir vraiment des spécialistes dans la question parce que nous, on est un peu dépassés.
Depuis, nous avons reçu d'autres appels téléphoniques, la plupart provenant du 16e arrondissement à Paris, mais aussi des arrondissements voisins, en particulier le 15e. Est-ce que c'est là l'explication d'un phénomène isolé ? En tout cas, d'autres personnes nous ont appelés de la banlieue parisienne pour nous dire que chez elles, il se produisait des faits semblables. C'est le cas de Maison Alfort, de Fontenay-aux-Roses et aussi de Massy-Palaiso, où cette auditrice nous propose une explication.
Est probablement dû au fait qu'une ménagère dans son escalier a laissé son robinet d'eau chaude ouvert lorsqu'elle s'est servi sa machine à laver.
Mais comment ça aurait pu influer sur tout l'immeuble ?
Ah mais c'est comme ça chez nous, moi j'habite Palaiso.
À Palaiso, c'est pareil.
Et c'est exactement comme ça. Des personnes étaient parties un week-end et les gens dans son escalier ont tous reçu pendant ce week-end. On ne pouvait pas pénétrer chez elles, n'est-ce pas ? Ont reçu de l'eau chaude dans le robinet d'eau froide. Et lorsque la personne est revenue du week-end, elle a fermé son robinet d'eau chaude à la machine à laver, pas ailleurs.
Ah oui, d'accord, je comprends. C'est l'alimentation de la machine à laver qui a provoqué cet afflux de chaleur.
Exactement.
Lucien Barnier, vous êtes donc en présence de tous ces éléments. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ce phénomène qui, pour l'instant, semble limitée ?
J'avoue qu'elle est difficile à découvrir, l'explication scientifique. D'abord, il peut y en avoir plusieurs. Vous savez qu'il y a des puits de captage de la nappe albienne qui font monter de l'eau chaude à la température d'une trentaine de degrés. Même à Viry-Châtillon, 33 degrés, 85 mètres cubes. Et cette eau chaude est parfois déversée dans la canalisation générale de distribution. Est-ce qu'on ne serait pas trompé dans les dosages ? C'est une hypothèse qui est parfaitement possible. Et alors, il faut admettre peut-être l'apparition d'un phénomène de caractère volcanique. Le fait qu'il y ait, dans le sous-sol parisien, cette présence de nappes d'eau chaude peut inciter à peut-être à envisager l'existence, la naissance d'un phénomène type geyser. Ça n'est pas exclu non plus.
Mais c'est dangereux, Lucien Barnier.
On va voir dans les prochaines heures si ça prend un caractère de plus en plus accusé, ce serait effectivement dangereux. Ce qui m'étonne, c'est le silence du service des eaux.
Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin.
J'imagine que vous avez tous envie d'être renseignés sur la situation à travers la France en ce qui concerne tous les mouvements de grève que vous connaissez. Pierre Ponty va nous donner le bilan de la situation en ce qui concerne d'abord Paris.
Le trafic de la RATP est très réduit sur l'ensemble du réseau souterrain. À midi, 4 rames en circulation. Trafic de surface, 24 autobus sur 2000. À la SNCF, quelques trains ont quitté Paris ce matin pour Calais, Lille, Aulnoy, Luxembourg, Bâle, Dieppe, Rouen et Strasbourg. Pour la banlieue, trafic très restreint. Quelques trains circulent entre Paris et Melun. Sur la banlieue du réseau électrifié, il faut mentionner une navette toutes les heures entre Saint-Lazare et Versailles, une autre entre Saint-Lazare et Argenteuil. Toutefois, la situation peut toujours évoluer au cours de la journée. Au Gaz de France, la grève est quasi générale. La pression reste très basse. À l'EDF, il n'y a pas à proprement parler de grève, mais journée revendicative. Il risque d'y avoir des baisses de la pression d'eau cet après-midi. À la Sécurité sociale, région de Paris, 80 à 90% des employés sont en grève. Le trafic aérien est également sérieusement perturbé, bien que tout le personnel des tours de contrôle d'Orly et du Bourget se soit trouvé présent ce matin.
Rappelons que je pense que c'est une précaution qui doit toujours être prise, que la baisse de pression de gaz peut être très dangereuse. Attention aux brûleurs, aux veilleuses, car lorsque la pression montera, si le brûleur s'est éteint après être resté ouvert, vous avez des risques d'explosion, d'asphyxie. Enfin, j'imagine que vous connaissez les dangers, mais faites attention. Nous allons demander maintenant à nos correspondants de province de faire le point de la situation. Nous commencerons par la région de Lille. Allô, Lille ? Édouard de Grise ? Allô, Lille ? Bon. Allô, Lille ? Il me semble bien que Lille soit lent à se mettre en ligne. Allô, Édouard de Grise ? Eh bien, alors, passons à Rennes. Anne-Marie Roselet, m'entend-elle ?
Sur Rennes.
Oui, alors, Anne-Marie Roselet, pouvez-vous nous donner rapidement la situation dans la région de Rennes en ce qui concerne les perturbations provoquées par les grèves ?
Eh bien, pour nos auditeurs, le mouvement d'arrêt du travail s'est traduit ce matin à notre première émission d'information par l'absence du bulletin météorologique. Et à la SNCF, le trafic est totalement arrêté en gare depuis le passage des trains de nuit vers Brest et Quimper. Il n'y aura aucun train dans la journée, mais comme le public est averti, les voyageurs ont pris leur disposition et la gare routière n'a pas envisagé jusqu'à présent de service de car supplémentaire.
Pas de problème de circulation dans la ville de Rennes ?
Apparemment, non, pas de problème de circulation.
Bon, alors en ce qui concerne la SNCF...
Le Gaz de France, le mouvement de protestation a été suivi par tout le personnel, mais les répercussions sont tout de même assez limitées en raison même d'une demande amoindrie, du fait même justement des arrêts de travail par ailleurs. Il y a une baisse de la pression du gaz et quelques coupures de courant possibles. Mais on pense que la situation peut même redevenir normale cet après-midi.
Bien, merci.
À Saint-Malo, le mouvement a été suivi dans les mêmes conditions.
Merci Anne-Marie Roselet. Je vous interromps parce que nous devons faire toutes les provinces françaises. Alors, nous n'avons pas le temps d'avoir tous les détails. Donc, situation un peu analogue à celle de Paris. Je vais demander maintenant à Lille si nous avons la communication. Allô, Lille ?
Oui, allô, je vous écoute.
Édouard de Grise. Alors, vous savez que nous avons donné les renseignements concernant l'ensemble de la SNCF. Y a-t-il des détails particuliers concernant la région de Lille ?
Eh bien, pour la SNCF,
donner une première réponse à une question que j'ai posée ce matin au micro d'Interactualité à 8h15. Je vous disais que des rumeurs circulaient, des rumeurs qui risquaient de beaucoup intriguer et même de passionner l'opinion parisienne. Je vous lis le texte de la Dépêche. L'Opéra de Paris va-t-il être vendu aux enchères ? Le produit de la vente servirait au financement du grand conservatoire Polyart du Quai d'Orsay. La décision interministérielle était attendue d'un moment à l'autre. Vous pensez bien que nous avons voulu savoir ce qu'en pensait le public parisien. Et Jean-Claude Héberlé a mené l'enquête ce matin.
Presque sûrement même.
Oui, sûrement, historiquement.
En admettant que ce soit fait, est-ce qu'à votre avis, on devrait construire autre chose à la place ou bien libérer un espace qui permettrait de
construire
meilleure
autre chose, tout de suite même, non
autre chose, oui.
Quoi, par exemple?
Quelque chose, je ne sais pas, quelque chose du genre Le Corbusier pour remettre, s'ils veulent refaire du moderne, si c'est, je ne sais pas, moi.
Construire un autre théâtre, peut-être, ou bien un monument historique qui pourrait persister plus tard dans l'avenir.
Théâtre, l'idée est à retenir parce que c'est très central. La vie des femmes maintenant, car je crois que la vie des femmes est importante. Madame.
Pour moi, tout monument de Paris est un phénomène historique. Il me serait pénible de les voir disparaître. Néanmoins, s'il s'agit de construire un édifice Polyart, ma foi, ça se tient.
Ça se tient, ça se défend.
Ça se tient, ça se défend.
Monsieur.
Je suis anglais et moi...
Vous connaissez quand même l'Opéra de Paris.
Oui, mais surtout comme faux défaut, c'est que le répertoire, il faut changer, pas l'opéra.
Madame, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez de...
On en fera une autre, alors.
Mais c'est-à-dire que l'opéra serait inclus dans ce conservatoire Polyart, je suppose.
Moi qui fais un peu gâteau à la crème, mais enfin, il en faut quand même un autre, hein.
Mm-hmm. Avis de madame, mademoiselle, peut-être.
She speaks English, only.
No, I speak Deutsch.
Quelqu'un peut-il faire l'interprète?
Also ich würde sagen, dass sie stehen bleiben sollte. Ich war allerdings noch nicht drin, aber von draußen ist es doch auch ein sehr schönes Gebäude.
Mademoiselle n'a jamais été à l'Opéra, mais même de l'extérieur, c'est très joli. Elle trouverait dommage de le faire disparaître.
Oh ben moi, je veux pas y croire, c'est tout.
Pourquoi ?
Parce que c'est un trop beau monument pour le démolir.
Madame ?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça me rappelle toute ma jeunesse.
C'est l'avis de madame
aussi ? Moi, je suis d'accord de le démolir, je le trouve affreux.
Ouais. Oh oui, affreux.
Vous voulez le démolir ?
Oui, faire quelque chose qui serve aussi bien pour un opéra, mais enfin, qui soit plus joli, plus esthétique.
Oui, vous ne voyez pas à la place un espace vert ou bien une place
si, mais enfin, de toute façon, il en faudra un autre.
Mais nous avons déjà quelques détails sur la construction future qui remplacera l'ancien opéra qui a fait son temps. D'ailleurs, la destruction de l'ancien opéra explique peut-être justement pourquoi il n'y a pas de directeur actuellement. Vous voyez, tout s'enchaîne. Ce nouveau building, conçu par Le Corbusier en un style aéré qui lui est propre, aurait 70 mètres de haut. Moins large que l'actuel opéra, il cadrera donc parfaitement dans la perspective de l'avenue. De chaque côté des jardins, que des lampes à infrarouges et un chauffage électrique du sol permettront de maintenir en pleine floraison tout au long de l'année. Évidemment, ce n'est pas sans regret que certains verront disparaître le vieux palais Garnier, mais ce building musical, si vous me permettez l'expression, sera mieux adapté à la fois au goût du public et aux nécessités d'une mise en scène plus efficace.
Thank you.
merci Pierre Heruzic pour ces détails. Vous pensez bien que nous avons pris aussi liaison avec le ministère des Affaires culturelles et ce soir, je crois que nous pourrons encore vous donner davantage de détails sur cette affaire. Au micro, Jacqueline Baudrier. Ce premier dimanche d'avril, le dernier avant le référendum, aura été heureusement un dimanche paisible chez nous et aussi en Algérie. Et pour l'Algérie, nous sommes si peu habitués à ce calme que nous n'avons cessé, comme chaque jour, comme chaque minute, de surveiller les téléscripteurs. Or, aucune dépêche ne tombait, comme on dit, dans le langage des journalistes. À Alger, à Oran, tout était tranquille cet après-midi. Il a fait beau, on est allé à la plage. C'est que la vie est là, malgré tous les deuils, malgré toutes les violences, la vie de tous les jours, qui n'attend qu'un peu d'espoir pour redevenir simple et tranquille. Cet espoir que contient le cessez-le-feu et aussi les accords d'Évian pour une Algérie nouvelle, qui devrait être celle de la coopération, celle d'une vie possible pour tous ceux qui cohabitent sur son sol, les Européens comme les musulmans.
Mais tout d'abord, le miracle de Pâques, je crois que le mot n'est pas trop fort. Madame X a 77 ans, elle habite au Canet dans les Alpes-Maritimes. Malade et dépressive hier, elle a voulu se suicider. Elle est montée sur le rebord de la fenêtre, sous elle 6 mètres de vide. La suite, un passant, Patrick Cochet-Latteau, l'a raconté à Roland Fraisa de Radio France Côte d'Azur.
Hier, j'ai été voir pour savoir à peu près. Bon, on m'a dit qu'elle allait bien. J'ai fait le possible parce que je disais, il faut que je la rattrape vraiment, parce que si je la rate, j'aurais pu me faire mal moi et elle. J'avais fait un amorti avec la poitrine et j'avais mis mes bras en avant. Bon, quand elle est tombée sur moi, j'ai poussé mon corps, quoi, ma poitrine, et elle est retombée sur mes bras. J'aurais jamais pensé que c'était aussi lourd que ça, jamais. Comme si qu'on faisait tomber une grosse pierre sur vous, quoi. J'étais tellement crispé, tellement concentré de la rattraper. Bon, j'ai eu le choc, oui, vraiment, j'ai eu mal. Bon, mais je pensais plus au mal, je pensais si elle était vivante ou... Je pensais pas au mal que j'avais, quoi. Il y avait des gens, bon, les gens qui étaient là, ils se sont écartés. Je pensais que les gens allaient se mettre avec moi, à la rattraper, ou parce que si on aurait été deux ou trois à mettre les mains, je pense que peut-être elle serait pas trouvée à l'hôpital aujourd'hui.
Alors ça s'est passé rue Saint-Sauveur, c'est quand même étrange.
Oui, le jour de Pâques en plus, je crois que c'était la journée du Seigneur pour elle et pour moi.
Extraordinaire invention d'un très sérieux professeur anglais d'université, la femme de ménage robot. Cette femme de ménage frotte les planchers, nettoie les tapis, lave les vitres, rince la baignoire, le tout avec entrain.
Elle peut même, si vous le voulez, laver et repasser le linge, mettre le couvert, et naturellement, elle est parfaitement capable de faire les lits et de changer les draps. Ce robot étonnant est doté d'une mémoire électronique. Vous lui donnez une fois pour toutes les instructions nécessaires. Des doigts ultra-sensibles lui permettent de reconnaître vos objets familiers et de les traiter naturellement avec le soin qu'ils méritent. Cette femme de ménage électronique marche à l'électricité et quand elle se sent faiblir, elle se remonte toute seule. Dignement, elle va se recharger. J'allais oublier de vous dire qu'elle monte ou qu'elle descend les escaliers comme vous et comme moi. Le seul ennui, c'est qu'elle est un peu chère. Il faudrait 1 million de livres à son inventeur pour lancer sa fabrication en série.
Venons-en maintenant à des choses un peu plus graves. Peut-être avez-vous entendu ce matin le reportage de Tommy Franklin sur une des opérations dégagement de la circulation. C'était en plein Paris, place de la Concorde, le transfert de l'obélisque pour les besoins de la circulation. On déplaçait l'obélisque pour l'installer sur le terre-plein du Vert-Galant, au lieu même où se dresse la statue d'Henri IV, laquelle devait être envoyée à Pau, ville du bon roi Henri. Alors Pascal Rossini, où en est-on ce soir de cette opération?
Eh bien, vous savez qu'immédiatement après l'émission, nous avons été accablés de coups de téléphone. Coups de téléphone indignés, tels celui de cette dame qui demandait d'urgence Pierre de la Garde pour ses monuments en péril, disait-elle. Bref, nos standards nous ont transmis dans l'après-midi quelques dizaines de communications. Nous en retenons une, celle des étudiants basco-béarnais de Paris qui faisait suite aux déclarations du maire de Pau, Monsieur Sannave. Monsieur Sannave, que vous avez pu d'ailleurs entendre aussi dans notre émission de 13h.
Allô? Allô, ici le président des étudiants basco-béarnais de Paris, monsieur.
Oui?
Monsieur, nous protestons énergiquement contre ce déplacement de la statue de Henri IV. Écoutez, je vous préviens que si la statue n'est pas en place ce soir, nous faisons sauter l'obélisque.
Mais oui, mais l'obélisque, encore une fois, n'est pas installé. Attendez au moins qu'elle soit installée, l'obélisque.
Monsieur, on fait sauter l'obélisque ce soir. Vous n'avez qu'à prévenir qui vous voudrez, la police ou les pompiers, mais nous, les étudiants, on est très montés, on en a marre. Vous comprenez?
Mais pourquoi vous avez marre de quoi?
Ben, parce qu'on ne veut pas qu'on touche Henri IV.
Mais on ne touche pas, on vous le renvoie.
On nous le renvoie.
Mais on le renvoie à Pau, sa ville, en somme.
Mais monsieur, sa place, c'est à Paris. Il a dit Paris vaut bien une messe, on ne sait pas pour être à Pau.
Ah. Et... Parce que alors là, vous voyez, il encombre tout de même sur le lieu.
Il encombre, monsieur, mais c'est un crime de lèse-majesté que vous dites là. Vous savez, on a du tempérament à Pau, nous,
hein. Oui, mais vous venez ce soir vérifier ou vous avez déjà envoyé quelqu'un?
Monsieur, je n'envoie personne, mais je vous préviens que la seule vérification, c'est que l'obélisque, elle saute au plastique.
Thank you. Réserver sa place dans son bus habituel ou sur sa rame de métro, eh bien c'est possible depuis ce matin. Après la disparition de la première classe dans le métro parisien, les plaintes de nombreux voyageurs, le patron d'une agence de voyage de Paris a eu cette idée de créer un service de réservation pour les transports en commun. Il a donc mis en place une formule simple, vous désignez votre horaire, votre itinéraire et les moyens utilisés habituellement. Pour 15 ou 20 francs, eh bien donc votre place sera réservée à la semaine. Une formule qui n'est valable pour l'instant qu'à Paris et dans les grandes villes de province. Brigitte Rinaldi et Philippe Legray ont mené leur enquête. Après le créateur de ce système que vous avez entendu tout à l'heure, eh bien voici la réaction de quelques utilisateurs.
Réserver sa place dans l'autobus, ça va ficher la pagaille encore plus à mon avis. Moi.
Ça me forcerait à prendre toujours le même bus alors.
Il faut y réfléchir.
C'est bien, oui, pour des personnes comme moi, d'accord, mais pour des personnes âgées, je trouve que c'est très bien. Hein.
Je ne sais pas si ça va apporter grand-chose, parce qu'il faut avoir le temps de pouvoir aller réserver.
J'apprécierais relativement quand même de pouvoir réserver ma place dans le métro. Ça me mettrait, je loue ma place dans le métro, ensuite je sors, j'ai ma place louée dans le théâtre, je reviens, j'ai ma place louée dans ma chambre, ma femme est louée. Bon, ben, ça m'intéresse quand même relativement.
Je suis sceptique.
La formule me semble valable.
Ce sera très bien, je serais intéressée. Ben, je me renseignerai. Merci du renseignement.
Oui, je voudrais bien savoir comment on va faire. Mais... Puis d'ailleurs, je m'en fous. Bon, enfin, ça, je préfère être debout, je peux plotter les filles.
Comme dirait l'autre, moi je préfère la marche à pied. Deux mots de sport pour terminer à Saint-Étienne. En plus des menaces qui pèsent sur le président Rocher, dont nous avons parlé tout à l'heure au début de ce journal, Gérard Janvion est suspendu pour 4 matchs. La commission de discipline de la Fédération de football lui reproche d'avoir confondu le ballon et la tête d'un adversaire et d'avoir précisément donné un coup de tête à Touvenel lors du match de samedi dernier contre Bordeaux.
Augmentation du pain ce matin, la baguette est passée à 1,20 en province et à 1,25 à Paris, soit 10 centimes de plus. Le kilo de gros pain, lui, augmente de 20 centimes. Vous l'avez peut-être entendu dans notre journal de 6 heures, une galerie du tunnel sous la Manche a été terminée par des ingénieurs et des ouvriers français. Cette nouvelle peut paraître incroyable, surtout aujourd'hui, mais elle est pourtant tout à fait authentique. Elle a même été vérifiée sur place à Sangatte, près de Calais, par notre correspondant dans le Nord, Jean-Yves Lehuédé. Il a rencontré Pierre Grimonpré, l'un des techniciens français qui a réalisé cet exploit.
En fait, nous avons tous été frustrés en apprenant la décision en 1975 d'abandon du tunnel sous la Manche. Alors nous sommes regroupés avec les ingénieurs anglais et nous avons fondé l'association de défense du tunnel sous la Manche. Au départ, une association qui nous permettait de nous retrouver. nous sommes limités à la construction d'une galerie de service, qui est en fait l'équivalent d'une petite galerie de mine. Nous avions une chance, c'est que les travaux préliminaires, la première galerie creusée donc en un peu plus d'un an, avait atteint la couche géologique favorable, c'est-à-dire la couche d'ardoise bleue qui est imperméable. Autrement dit, il nous a suffi de creuser dans cette paroi particulièrement solide pour construire ce tunnel de service. Les Anglais nous ont suivis quelques mois après et il nous a tout de même fallu 2 ans pour accomplir, pour relier l'Angleterre à la France.
Ainsi se referme cette parenthèse traditionnelle du 1er avril. Sauf erreur involontaire, nous garantissons l'authenticité des informations qui vont suivre.
Lucien Biron.
Les syndicats du personnel navigant d'Air France ont déposé un nouveau préavis de grève. Cet arrêt de travail durera 48 heures et il concernera les vols au départ de Paris. Il doit commencer le 8 avril à 0 heure et se terminera le 9 avril à 23h59. Ce préavis a été déposé avant même que les pilotes et les navigants d'Air France aient terminé la grève actuelle qui doit prendre fin ce soir à minuit. Dimanche prochain, le stationnement sera interdit sur les contre-allées des Champs-Élysées. Et le parking souterrain Georges V sera fermé au public. En effet, un grand prix hippique doit avoir lieu entre la Concorde et l'Étoile. Cela pose évidemment des problèmes d'organisation assez compliqués. Dès aujourd'hui, des agents de police ont glissé sur le pare-brise des automobiles en stationnement sur les Champs-Élysées des avis pour dimanche prochain. Alain Barraud en a rencontré un.
Monsieur l'agent, vous mettez des petits papiers sous les pare-brises, là, ça ne semble pas être des contraventions.
Ah non, monsieur, ce ne sont pas des contraventions, absolument pas. Ce sont des avertissements que nous mettons aux gens qui ont l'habitude de stationner sur les Champs-Élysées pour que, pendant la journée du 3 avril, ils n'auront pas le droit de stationner à cause de la course de chevaux.
Ou alors vous les prévenez de ne pas garer leur véhicule ce jour-là.
Et c'est cela, et ils n'ont pas le droit de stationner sur les Champs-Élysées, sinon nous ferons enlever les voitures qui resteront.
Merci, monsieur l'agent.
Auditeurs qui nous écoutez en ce moment, nous vous demandons de continuer à être ce que vous êtes toujours dans les moments tragiques, présents, généreux, actifs. Le malheur n'a pas de frontières, pas de patrie, souvenez-vous-en. Il faut que chacun de nous, chaque Français, essaie, selon ses moyens, de faire le maximum pour les sinistrés de la République malgache. Il faut envoyer à Madagascar, immédiatement, le plus d'argent possible et le plus vite possible. Que les collectivités, les grandes firmes, les grandes entreprises commerciales donnent l'exemple et fassent assaut de générosité. Qu'elles envoient tous leurs dons au compte chèque postal de la Pairie Générale 90 60 51 107 rue de Grenelle avec mention pour les sinistrés de Madagascar. Mais nous vous offrons autre chose. Nous vous offrons de lancer grâce à vous la surenchère de la solidarité. Je m'adresse en ce moment plus spécialement aux grandes vedettes, aux grandes firmes, à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui peuvent démontrer largement leur générosité. Nous vous offrons les antennes de la RTF sous le titre SOS pour les sinistrés de Madagascar, qui dit mieux ? Nous attendons vos offres par téléphone ou par télégramme, 118 avenue des Champs-Élysées, Vous pouvez téléphoner à partir de maintenant à Élysée 7309. Nous citerons les dons les plus généreux à nos émissions Actualité de midi et Paris vous parle demain et les jours suivants.
Je vous rappelle le numéro de permanence Élysée 7309.
C'était la face A de l'atelier avec Poissonnerie par Philippe Langlois et Frank Smith.
Mais j'attends déjà que revienne la nuit,
scellée dans l'espace.
La même nuit, s'il se peut.
Archive INA, remerciements à Françoise Mahati, musique de James Newton Howard, mixage Guy Senot, une réalisation de Anne-Pascale Desvignes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er avril 2007. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Les poissons sont des drôles de mecs, sans façon ils se clouent le bec sur un verre ou un asticot. Les voilà coincés illico. Faut vraiment pas être futé quand on n'aime que l'humidité. Pour se faire piquer aussi sec, les poissons sont des drôles de mecs. Les poissons sont des drôles de mecs. Cela dit, sans salam aleik, malgré les conseils de leurs parents, qu'ils soient ablettes ou même harengs, ils avalent quand il faudrait pas et passent d'appât à trépas. On fait de gueuleton, quel échec. Les poissons sont des drôles de mecs. Les poissons sont des drôles de mecs. C'est comme ça qu'il faut faire avec, dont on dit pourtant qu'ils sont heureux dans l'eau comme des poissons. Mais hélas, leur baptême de l'air se termine chez la ménagère. Rôtis comme des vulgaires biftecs, oh là là là, les poissons sont des drôles de mecs. Les poissons sont des drôles de mecs. Les anciens, tout comme les blancs becs, pour se faire ainsi posséder, faut vraiment pas avoir d'idée. Nous, on n'est pas prêts d'avaler tout ce que nous balance la télé.
pas question de mordre à l'hameçon. On est des mecs, pas des poissons. Pas question de mordre à l'hameçon. Non, non, on est des mecs, pas des poissons.